terme, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, l'éducation des jeunes, en sont totalement face à ça.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir. Donc vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler dans un premier temps de Trux, Renault Trux, donc du plan social à Renault Trux.
Trux.
Les gros camions.
Les gros camions, tout à fait. Ensuite, on va parler d'un procès du Progrès qui est en procès pour on vous rappellera ça tout à l'heure pour des insultes des propos racistes
en avait parlé l'année dernière
ensuite on parlera du rapport de Combrexel de la réforme du collège et de la mobilisation en cours. Ensuite, d'un super truc qui s'appelle l'abordage, donc qui vient juste de sortir. Ensuite, une rubrique sur les migrants, avec notamment l'appel à solidarité à Vintimille. Et ensuite, on terminera par l'agenda. Et voilà, c'est tout.
Ça sera sans doute un peu plus court aujourd'hui.
Et oui, c'est la rentrée et on est déjà fatigué, mais on va quand même essayer de vous faire un canu info un peu punchy. Et donc on commence comme d'habitude par les infos locales et notamment du plan social qu'il y a à Renault Trux. Alors ça fait quand même plusieurs années qu'on vous parle des différents plans sociaux qu'il y a dans les usines de la région et notamment les usines automobiles. On avait beaucoup parlé de Centro Motors aussi à d'autres moments. Et alors là, on a trouvé peu d'infos sur le sujet, mais ça nous paraissait quand même important de vous en parler, notamment si vous voulez aussi exprimer votre solidarité vis-à-vis des employés de Renault Trux et de sa maison mère Volvo, puisque les syndicats, un par un, valident tour à tour les accords de licenciement. Et hier, c'est la CFDT qui a validé à son tour l'accord. Du coup, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Donc, il y a un accord de licenciement qui avait été signé déjà par la CFE-CGC, qui entraîne le licenciement de 25 personnes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, c'est toujours très drôle de voir qu'un plan qui s'appelle sauvegarde de l'emploi a pour finalité de licencier des personnes. Mais il faut savoir que du coup, cet accord qui a été validé hier par la CFDT prévoit à terme la suppression de 480 postes à Lyon et autour de Lyon, ce qui fait quand même pas mal d'emplois. Donc, alors, comment le syndicat CFDT exprime son opinion ? Donc, le syndicat CFDT de Renault Trux a annoncé hier, jeudi 17 septembre, qu'il signait l'accord ouvrant la voie au licenciement de 25 personnes, donc, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc c'est un accord qui devient majoritaire maintenant au niveau des syndicats, qui est négocié depuis plusieurs mois et qui a été adopté. Donc les premiers départs auront lieu en octobre. Donc ce plan de social d'entreprise, c'est des choses qu'on appelle PSE, peut-être vous en avez déjà entendu parler, est mis en place par le groupe Volvo, qui est propriétaire de Renault Trux, et qui prévoit, comme je vous l'ai dit, du coup à terme de la suppression de 480 postes autour de Lyon. Donc l'ensemble des mesures de l'accord majoritaire a permis de réduire l'estimation des départs contraints de 200 à environ 25 licenciements, s'est empressé de souligner jeudi dans un communiqué l'inter-CFDT Renault Trux. Il faut savoir que pour un tel accord, la signature de syndicats représentant plus de la moitié des voix aux élections professionnelles est requise. Et c'est maintenant chose faite, puisque avec 28,4% des voix de la CGC et les 28,1% des voix de la CFDT, l'accord va être accepté. Ce qui repose aussi plus fondamentalement la place des syndicats dans l'évolution des entreprises, ben, en tout cas en France, et que même si peu de personnes globalement sont syndiquées, ça reste encore un pouvoir dans comment fonctionnent les entreprises et notamment les plans licenciements en France, et du coup des prises de position très très importantes de la part de ces syndicats. Ce plan, il est un peu dans une logique de restructuration en série de la part de Renault Trucks et de Volvo. Donc en fait, ce PSE, c'est quand même le second plan social touchant Renault Trucks en un an, après une première vague de suppression de postes en 2014. On vous rappelle qu'en 2014, c'est 508 postes, dont 319 dans la région lyonnaise, qui ont déjà disparu. Sans licenciement sec, ça veut dire que du coup, avec des accords faits avec les salariés, mais qui généralement galèrent beaucoup à la suite pour retrouver un emploi. Le syndicat CFE-CGC a d'ailleurs précisé qu'il n'approuvait en aucune façon un plan social d'entreprise, injuste pour les salariés et dommageable pour l'entreprise. Il n'empêche que s'il précise ça, il signe quand même les accords. La maison mère Volvo est engagée dans une profonde restructuration de son activité et a déjà réduit ses effectifs de plus de 3000 personnes. Après des années 2012 et 2013 difficiles, le bénéfice net du groupe a quadruplé au premier trimestre 2015, avec des ventes en hausse de 14%, mais les économies sont toujours à l'ordre du jour. Donc pour vous rappeler qu'il y a encore des luttes sociales au niveau de l'emploi, et même si ce n'est pas les luttes qui sont mises en avant dans les informations mainstream, c'est encore des luttes qui restent importantes pour des personnes, et je pense que ça fera plaisir à tous les salariés, ou en tout cas une partie de Renault Trucks, qu'aussi des gens expriment leur solidarité et se mobilisent autour de ces questions-là.
Maintenant, on va parler du coup du journal Le Progrès. Petit rafraîchissement de mémoire. En avril 2014, Le Progrès a publié un article intitulé « Délinquance, à chacun sa spécialité ». En gros, cet article dressait un palmarès des principales nationalités qui sont impliquées dans des actes de délinquance dans le Rhône. Et donc, face à un tel article, SOS Racisme a porté plainte contre le journal. Et donc, Le Progrès a dû s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Lyon ce mardi 15 septembre. En gros, pour rentrer un peu plus dans les détails de cet article. Cet article, du coup, établissait une sorte de tableau qui mettait en catégorie différentes infractions telles que le cambriolage, le piratage, le distributeur de billets, le vol de ferraille, braquage, petit vol, prostitution, trafic de stupéfiants, et je vous en passe. Et donc, chaque catégorie d'infractions était, associée à des nationalités comme les Géorgiens, les Albanais, les Bulgares, les Russes. Et il y avait même aussi des nationalités totalement inventées comme Rome et Africaines, ou bien gens du voyage ou groupe des cités. Donc voilà. Et quand cet article est paru, le soir de la publication, la rédaction en chef du quotidien a mis en ligne un lapidaire mot d'excuse qui est le suivant que je vais vous lire. Certains termes de cette infographie ne sont pas assez précis ou maladroits et peuvent, pris isolément, laisser à croire que nous avons des intentions stigmatisantes. Ce n'est pas Le Progrès, ce n'est pas la culture et l'histoire de notre journal. Si des lecteurs ont été choqués, nous tenons à nous excuser et à rappeler nos intentions. Voilà, magnifique petit extrait. Face du coup à cette publication, il y a eu une vague de réactions qui a été assez forte, notamment du coup des élus, la vie plutôt associative. Et par exemple, du coup, on peut il y avait carrément le petit journal de Canal+ qui était descendu du coup à Lyon pour se moquer du Progrès du coup. Voilà. J'ai sélectionné exprès pour vous deux petits extraits justement de l'article du Progrès qui ne sont pas piqués des verres. Donc la rubrique « Les braquages près de chez soi ». Attention. Les gros braqueurs de banque d'autrefois ont laissé la place à une nouvelle génération de malfrats. Si les bandes très organisées en provenance de la banlieue lyonnaise s'attaquent avec de l'armement lourd aux bijouteries ou aux casinos et poussent jusqu'en Suisse, les petits montent en l'air, frappent au coin de la rue. Tada ! Pas encore ancrés dans la délinquance, ils enfilent une cagoule et visent la boulangerie ou le bureau de tabac de leur quartier et se sauvent en scooter. Boum ! On trouve de très jeunes des cités et même des toxicomanes. Ouhou. Deuxième petit extrait parce que bon, faut pas s'en priver. Prostitution, l'autre vague de l'Est. C'est un des rares secteurs où on trouve des réseaux black. Sous la coupe de mer maquerelle, dites les mamas, les prostituées africaines, c'est-à-dire Guinée équatoriale, Nigeria, Sierra Leone, etc., représentent à peu près en 2012... 40% des filles qui tapinent dans la rue, en camionnette ou à pied, c'est même stipulé. Mais les Africaines voient de plus en plus leurs trottoirs assiégés par des filles de l'Est. Les réseaux pourvoyeurs recrutent en Roumanie, Albanie et Bulgarie. Tout en bas de l'échelle, les Roms ont fait aussi leur percée. Les Russes et les Ukrainiens prospectent surtout sur le net et visent une clientèle plus fortunée. Bref, on a une petite gaillère. C'est pas... Bref, voilà les extraits. Et puis, bah, du coup, si vous attendiez le résultat du coup du procès, eh ben, on l'a pas. Alors, bah, on vous le dira quand on l'aura dans un prochain Canu Info. Voilà.
Merci pour toutes ces belles informations. Du coup, on va enchaîner avec un petit interlude musical. Et oui, déjà. Donc on va écouter un morceau de Molly Nielsen, I'm Still Wearing His Jacket. C'est parti.
New Wave.
New Wave.
savons seulement ce que c'est qu'une dictature. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Et oui, de retour sur Radio Canu, Canu Info. Et donc, vous l'aurez compris, nous allons aborder la rubrique plus nationale de ce Canu Info. Avec la première fois qu'on passe mini-jingle, qui est, on peut le dire, d'où il est tiré.
De OSS 117, voilà. Et donc une grosse référence à la naissance et la nature de la 5e République.
Tout à fait. Et donc, justement, en parlant de la 5e République... on va vous parler d'un nouveau truc qui est sorti un peu cet été, enfin disons à la rentrée. Donc le rapport Combrexel. Donc alors qu'est-ce que c'est? Alors du coup, petit rappel. Mercredi, donc c'est passé mercredi 9 septembre, donc Valls a reçu les devoirs de vacances donc du coup de monsieur Combrexel, qui est le président de la section sociale du Conseil d'État. Donc il s'agit en l'occurrence d'un rapport qui propose une refonte du droit du travail. L'objectif est de présenter un projet de loi en Conseil des ministres fin 2015, début 2016, et que le tout soit voté par le Parlement avant l'été. Donc ils veulent que ça aille assez vite. Donc voilà, alors qu'est-ce que propose ce rapport? Donc en gros, il va s'agir d'une énième, entre guillemets, de simplification du code du travail. Donc le MEDEF et la CGPME, entre autres, trouvent effectivement que le code du travail est trop lourd et les lois trop rigides, ce qui empêche de faire plein de bénéfices et de créer des emplois. Malheur. Alors cette simplification, selon Valls, est faite pour qu'il y ait une meilleure adaptabilité des normes aux besoins des entreprises. Donc c'est bien connu, les salariés, eux, par contre, n'ont pas de besoins et ils ne travaillent que pour la gloire et la prospérité de leur boss. Donc voilà, donc c'est un peu ce rapport, en fait, il va s'inscrire dans la continuité des précédentes réformes, comme par exemple la loi Macron. Donc, dans le but, donc là, ça va être d'une part de faire que dans le domaine du droit du travail, l'accord collectif prime sur la loi. Donc, en fait, du coup, les entreprises pourront avoir leur propre loi qui vient supplanter le code du travail. De faire que dans tous les domaines du droit du travail, l'accord collectif prévalant sur le contrat du travail soit plus défavorable que soit licencié le salarié. Donc c'est-à-dire on favorise le licenciement du salarié qui refuserait de renoncer aux droits inscrits sur le contrat qu'il a signé, avec une indemnité de licenciement qui, du coup, de toute façon, on se doute, sera inférieure à ce que la loi indique dans le Code du travail et qui sera plutôt celle qui est préconisée par l'accord collectif, alors collectif, c'est-à-dire entre le salarié et l'entreprise. Donc d'ailleurs, la loi Macron avait déjà inscrit la possibilité, du coup, de remplacer le code du travail par le code civil dans le seul cas où patron et salarié se tombaient d'accord. Donc après, on connaît les conditions de mise en accord dans certaines boîtes. Donc voilà, ça en dit long. Autre point, le but, c'est de faire sauter les limites de durée maximale du travail sur la journée et la semaine, et de moins ou pas du tout payer les majorations pour heures supplémentaires. Également de faire sauter par accord collectif ou individuel les salaires minima des grilles de conventions collectives ou les salaires consentis dans les contrats de travail individuel. Et évidemment, pour que tout ça se passe dans la joie et l'allégresse, aucun contrôle et aucune sanction n'est prévu en cas de non-respect de ces accords collectifs. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce qui est prévu par ce rapport. Donc là, il y a un projet de loi qui va être maintenant être établi. On imagine très bien, par exemple, dans les petites et moyennes entreprises, que ça va être un vrai carnage, puisque les rapports de négociations entre ce qu'ils appellent les négociations collectives dans les, dans les, dans les petites entreprises, ben, c'est pas, il n'y a pas vraiment de représentation syndicale, etc. Donc c'est un peu le, c'est un peu chaque salarié qui se retrouve à devoir dealer avec son, avec son patron sur ses conditions. Et par exemple, la CGPME, elle s'en lèche déjà les doigts. Donc je rappelle, la CGPME, donc c'est la Confédération Générale du Patronat des Moyennes et Petites Entreprises. Donc voilà, qui est en plus, qui est excessivement hostile aux syndicats dans les petites entreprises, qui donc, elle, assume complètement, estime que ce serait un indéniable progrès, car le code du travail verrait sa place considérablement réduite, évidemment, puisqu'ils pourraient faire passer un peu tout ce qu'ils veulent, etc. Mais alors, à souligner quand même qu'ils ne sont pas complètement satisfaits, donc notamment le MEDEF et tout ça, puisqu'il n'y a pas tous les points qu'ils auraient voulu, dedans, et notamment, alors un truc, a priori, par rapport aux 35 heures, c'est pas explicite dans le, dans ce rapport, mais bon, on fait confiance, on leur fait confiance pour aller FISA y remédier dans le projet de loi. Donc voilà, donc là, c'est un peu le, ils sont en train d'attaquer, comment on appelle ça, cet engin de destruction massive, l'espèce de boule énorme, la boule de démolition. Voilà, faut imaginer le code du travail. Ils envoient cette grosse boule dedans et voilà, ça va être ça un peu ce projet de loi.
Même chaque coup avec une boule au bout, ouais, je me rappelle plus.
Ouais, je
pointe sur la boule.
Voilà, ouais, je sais plus trop.
Et les fumigènes.
Alors, justement, hier, il n'y avait pas de fumigènes à Lyon. Tu avais fini, hein, bien sûr. Hein,
j'ai tout à fait complètement fini.
Il n'y avait donc pas de fumigènes à Lyon. À peu près 800 manifestants selon les syndicats, à peine 500 selon la police, pour manifester contre la réforme du collège qui est prévue pour la rentrée 2016. C'était donc le premier mouvement depuis la rentrée. Il y en avait eu d'autres à la fin de l'année scolaire dernière. Et on va revenir donc sur cette mobilisation et les enjeux derrière cette mobilisation. Donc pour les chiffres, guéguerre des chiffres comme à chaque fois. Donc on annonçait entre 16, là c'est pour la police, et 35 à 40% de grévistes dans les collèges. Là c'est pour les syndicats notamment. Alors ces chiffres-là, je les ai eus sur le site du SNES qui lui annonce 40% de grévistes dans les collèges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'annonce cette réforme du collège et quelles critiques sont faites par la plupart des syndicats qui manifestaient hier, des syndicats les plus réactionnaires du genre SNALC aux autres syndicats plus progressistes et émancipateurs comme la CNT, Sud, la CGT, Duc ou même certaines branches du SNES. Alors, à ne pas confondre d'ailleurs la réforme du collège avec la réforme du programme qui, elle, entrera en vigueur exactement au même moment à la rentrée 2016. Les programmes, c'est ce qui est enseigné aux élèves dans les différentes matières, mathématiques, français, histoire, géographie, musique, art plastique, etc. La réforme du collège, elle, consiste en l'organisation interne de chaque collège. Et donc, elle prévoit quelques chamboulements, quelques changements. Alors, la première chose que prévoit ce projet de loi, c'est d'une part mettre en place des nouvelles modalités, ce qu'on appelle dans la loi des nouvelles modalités d'enseignement, c'est-à-dire favoriser les enseignements interdisciplinaires, donc construits entre les disciplines, les ponts faits entre disciplines, l'accompagnement personnalisé. On verra, en réalité, il n'y a pas possibilité de mettre en place un accompagnement véritablement personnalisé, c'est-à-dire centré autour d'un élève ou d'un petit groupe d'élèves, et le travail en petit groupe. Ces nouvelles modalités d'enseignement représenteraient 20% du temps des enseignants qu'il leur reviendra d'organiser. Alors, qui organiserait ce nouveau type d'enseignement? Ce serait le conseil pédagogique, présidé par le principal du collège, qui choisit lui-même les membres du conseil pédagogique. Donc, peut-être qu'il choisira, par exemple, pas les enseignants trop embêtants, trop syndiqués, trop récalcitrants à mettre en place cette fameuse réforme du collège. Donc, qu'est-ce que les syndicats disent vis-à-vis de cette question des nouvelles modalités d'enseignement ? Eh bien, beaucoup disent que ce conseil pédagogique qui doit définir l'accompagnement personnalisé, comme je vous l'ai dit, déjà, c'est le principal tout seul qui choisit les gens qui en font partie. Et puis surtout, il n'y a pas de rencontre ensuite entre les autres enseignants, ceux qui ne sont pas dans le conseil pédagogique. Et étant donné qu'il n'y a pas de rencontre prévue et rémunérée, eh bien, il apparaît très très difficile de mettre en place ces nouveaux dispositifs qui peut-être peuvent servir à certains élèves. Ça, c'est selon, c'est à chacun de se positionner. Sans doute que ça peut servir à certains élèves de favoriser l'interdisciplinarité et les petits groupes de travail, mais les moyens mis en place semblent encore une fois largement insuffisants pour renouveler les pratiques pédagogiques et permettre à chacun d'échanger. Donc ça, c'était l'un des points. D'autre part, le projet de loi prévoit que les équipes pédagogiques et éducatives disposeront d'une réelle capacité d'initiative pour définir qui fera quoi pendant 4 à 5 heures par semaine dans le respect des horaires disciplinaires, ce qui veut dire dans le respect des horaires prévus par les programmes. Par exemple, en 5e, disons qu'il y a 3 heures d'histoire par semaine, et donc sur ces 3 heures seront respectées, et il y aura possibilité d'aménager également d'autres horaires pour les nouveaux aménagements prévus par la réforme. Alors, ce que l'on entend ici et là, c'est que sous prétexte d'autonomie et de flexibilité, l'État se protège et se déresponsabilise, puisque chaque établissement fera comme il veut pour mettre en place cette autonomie, ce qui risque de créer des tensions entre les disciplines, donc puisque ces fameuses heures risquent alors d'aller dans certains établissements aux professeurs de français, dans d'autres aux professeurs de mathématiques, d'autres à d'autres disciplines encore. Et donc ça risque de monter les équipes éducatives les unes contre les autres et d'ailleurs empêcher un mouvement social collectif contre cette fameuse réforme, enfin une fois qu'elle serait mise en place. Les disciplines vont donc tout simplement être mises en concurrence et à une échelle plus large, les établissements eux-mêmes seront, et de plus en plus, et ils le sont déjà, mis en concurrence. Alors notamment par rapport aux résultats pour les collèges, notamment par rapport aux résultats du brevet. Il faut savoir qu'à chaque rentrée, on nous annonce les résultats du brevet, c'est-à-dire le pourcentage de ceux qui ont eu le brevet. Et très souvent, eh bien, le recteur ou la rectrice pour Lyon vient taper sur les doigts du principal parce qu'il n'a pas eu les résultats escomptés par rapport à ce qu'on estimait qu'il devait avoir. Et dans ce cas-là, ensuite, c'est les professeurs qui sont blâmés. Enfin, et c'est surtout comme ceci qui était justifié cette réforme du collège, elle est censément produite pour réduire les inégalités au sein de l'école. Alors, avec notamment, l'un des points, c'est la mise en place d'allocations progressives pour les professeurs qui permettent de valoriser les collègues qui bossent dans les établissements les plus difficiles, donc qui s'appelaient autrefois les ZEP, aujourd'hui REP, et voilà, donc avec des rémunérations plus hautes pour ces professeurs. Dans le même temps, et pour autant, la seule mesure qui tendait à éviter la ghettoisation des ZEP était la carte scolaire, qui garantissait un peu de mixité sociale. La carte scolaire, c'est ce qui obligeait les familles à scolariser leurs enfants dans l'établissement à proximité duquel ils vivaient. Donc ça garantit absolument pas une mixité sociale complète, mais un minimum de mixité sociale, parce qu'on sait bien que les parents qui ont un capital culturel et social un peu plus élevés auront tendance à envoyer leurs enfants dans le collège qui n'est pas celui de leur quartier s'ils estiment que leur quartier craint un peu, hein, ou qu'il est socialement défavorisé. Donc tout en assouplissant la carte scolaire, en fait, on renforce de fait les ghettos et la mesure et la réforme du collège ne touche absolument pas à ce point, à cet assouplissement de la carte scolaire qui avait été décidé il y a quelques années. Au contraire, elle renforce donc ce principe et met en concurrence, comme je disais tout à l'heure, les établissements et l'attrait pour les établissements publics des quartiers plus bourgeois et même des collèges privés. D'ailleurs, on ne touche pas plus au financement des établissements privés sous contrat, puisqu'il faut savoir quand même que la majorité des établissements privés en France sont sous contrat et que les professeurs et les membres de ces établissements sont payés par l'État, ce qui, là aussi, en général, renforce les inégalités au sein de l'école. Voilà donc les quelques points sur lesquels je pouvais vous présenter cette réforme du collège. Il y a d'autres choses à dire et vous pouvez trouver d'autres renseignements sur les sites des principaux syndicats. À noter notamment qu'il y a des modifications quant aux options latin-grec et aux langues, puisque les classes bilingues sont supprimées, ce qui permettait autrefois à des élèves de suivre de langue dès la sixième, et remplacé par une LV2 obligatoire en cinquième, une deuxième langue vivante, en cinquième, qui devient obligatoire, le but étant de casser les classes euro, notamment, il est vrai, dans lesquelles on retrouve principalement des élèves venant de milieux favorisés, mais là encore, ça risque d'attirer des élèves vers le privé. Voilà, et renforcer ce qu'on peut appeler un peu la ghettoïsation du système scolaire français.
Eh ben, merci pour toutes ces précisions sur ce qui est en train de se passer avec cette réforme. Alors, avant de parler de l'abordage, on va vous passer un petit morceau de musique. Donc, c'est Jeannette. Pourquoi tu vis, c'est ça?
Oui. C'est ça.
Hop, c'est parti.
voilà, et après cette super chanson de Jeannette qui est un peu genre l'hymne de l'abordage, et bien du coup l'abordage justement sort son deuxième numéro. Alors l'abordage, c'est une revue qui a sorti son premier numéro en avril 2013 et qui a pour sous-titre « Revue critique de l'agisme ». Et souvent, on nous demande qu'est-ce que c'est l'agisme ? Est-ce que c'est les manières d'agir ? Eh ben, pas exactement.
Alors c'est quoi ?
Et pour l'expliquer de manière caricaturale et sûrement un peu fausse, mais ça explique un peu, si on prend par exemple les termes de sexisme ou de racisme, eh ben du coup, on se dit que c'est des gens qui luttent contre les rapports de domination de genre, par exemple pour le sexisme, ou autour des races, ou en tout cas la manière dont on catégorise des gens quand on les voit pour le racisme. Et l'agisme, c'est un peu pareil. Parce que par exemple, si tu croises quelqu'un dans la rue, parfois tu vas changer ton comportement, voilà, selon son sexe présumé, selon sa race présumée, selon plein de choses en fait, hein, sa classe sociale présumée par toi, son orientation sexuelle présumée par toi, mais aussi par rapport à son âge. Et alors tu me diras, quoi de plus naturel que de faire ça, sauf que parfois ça peut amener à des rapports de discrimination, voire de repression extrêmement forte. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui du coup luttent contre l'agisme. Et dans leur deuxième numéro, notamment, elles expliquent pourquoi elles sont anti-agistes. Et elles disent « Nous sommes anti-agistes car nous sommes contre cette différence qui serait pour beaucoup naturelle entre mineurs et majeurs, contre les pouvoirs prêtés à l'adulte, contre la subordination de certaines personnes à d'autres sur critères d'âge. »
C'est pas du tout rigolo.
Mais c'est pas très drôle. Après, ce qui est assez chouette, c'est que la revue, elle essaie de donner la parole beaucoup aux personnes beaucoup moins âgées ou beaucoup, beaucoup plus âgées. Et du coup, il y a plein de formes qu'on retrouve dedans. Tu peux retrouver, par exemple, des chansons, des BD, des histoires, des témoignages qu'on a trouvés sur des blogs, et aussi des textes d'analyse, mais qu'il y a vraiment un travail sur les formes et aussi sur les personnes qui s'expriment, et vraiment que ça essaye, même si ça n'arrive pas toujours à être une tribune pour plein de personnes différentes. Donc, ça a fait une revue plutôt rigolote sur un sujet, effectivement, qu'il faudrait brasser et qui est un peu lourd.
Et du coup, sur les différentes catégories d'âge, ça parle à la fois de personnes âgées, de jeunes, c'est très large, quoi.
C'est que c'est une ambition un peu folle de brasser ces deux sujets-là un peu différents quand même à la base du rapport. Tu vois, tu prends l'adulte un peu au milieu comme quelqu'un à qui on prêterait beaucoup de pouvoir, et notamment celui de l'autonomie. Et autonomie de réfléchir, autonomie financière, autonomie de se réaliser quelque part. Et comme si dans l'idée que si tu étais très très jeune ou alors quand tu deviens très très âgé, ben tu n'as plus cette autonomie. Et donc ça parle un peu de tout ça. Et donc ça le mélange, même si évidemment ben, ce n'est pas du tout pareil quand tu as 6 ans que quand on est à 80. Mais voilà, ça essaye de mélanger ça et montrer comment c'est des processus qui sont similaires, en partant beaucoup d'expériences et de témoignages de personnes, et aussi certaines personnes qui essayent de l'analyser ça avec un peu plus de recul.
Et du coup, est-ce qu'on peut trouver cette revue ?
Eh ben, alors, tu peux écrire si tu veux à une adresse mail qui est ultra simple à retenir, tu peux sortir ton crayon dès maintenant, qui s'appelle l'abordage tout attaché, labordage@poivron, comme le légume, .org. Et sinon, sur Lyon par exemple, tu peux trouver déjà la revue à la librairie Terre des Livres, qui est une librairie qui est rue de Marseille dans le 7e, ou encore à la Griffe, qui est une autre librairie qui est rue Sébastien Griffe. Et voilà. C'est ça ?
Oui, c'est ça, dans le 7e aussi. Et du coup, moi j'ai une question sur, sur comment vous gérez l'élaboration de l'abordage, c'est-à-dire est-ce que vous faites des ateliers d'écriture ? Est-ce que des gens vous envoient des textes ? Comment vous gérez tout ça en fait ?
Alors, c'est un truc qui est toujours en construction. Là, pour ce deuxième numéro, on a envoyé un appel à contribution, comme pour le premier. Le but, c'est que ce soit vraiment pas les personnes qui éditent le numéro, qui écrivent dedans. Et comme, du coup, je l'ai dit, de donner beaucoup la parole et aux beaucoup plus jeunes et aux beaucoup plus âgés, en partant du présupposé qui est assez vrai, que c'est des gens qui ont peu la parole et qui s'expriment peu, qui sont peu édités, qui sont peu publiés. Et donc, voilà, toujours cette logique de valoriser toutes les modes d'expression. Ah, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les dessins sont aussi valorisés qu'un texte écrit. Vraiment, tu peux donner 3 lignes de ton journal intime ou un dessin, et c'est considéré comme une contribution à part entière. Et pour ce deuxième numéro, du coup, il y a des restes d'une semaine de réflexion et d'écriture de contributions qu'on avait organisée. Mais il y a surtout beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des contributions par la poste ou par mail. Surtout comme ça, et beaucoup de témoignages. Parce que c'est notamment aussi des gens qui parfois, bah, déjà, on n'a pas accès à nos réseaux à nous et à la revue en tant que telle. Et on a eu plusieurs copines, copains qui sont allés interviewer des initiatives qu'on trouvait super chouettes. Donc, il y a pas mal de témoignages et ça reste du coup une revue complètement en construction. Et on s'est dit que pour le troisième numéro, on allait beaucoup insister sur le côté investigation. Et du coup, les personnes de l'équipe de l'abordage sont un peu en train de se former en termes d'outils pour savoir animer des ateliers dessin, des ateliers d'écriture, pour aussi aller vraiment plus rencontrer les gens et construire le troisième numéro toujours plus avec les personnes. Et voilà. Voilà pour ce numéro, pour vous dire aussi qu'il est très joli et orange et qu'évidemment l'équipe de l'abordage attend des retours sur cette question-là, qui est une question quand même peu pensée et peu médiatisée, qui est souvent beaucoup naturalisée ou essentialisée. En gros, ça veut dire que c'est considéré comme naturel d'avoir des rapports différentiels entre les âges et du coup comme normal. Alors on n'est pas du tout en train de dire que c'est pas normal d'avoir des rapports différents entre chaque personne, mais par contre que derrière, de manière sous-jacente, il y a souvent, ou en tout cas parfois, des rapports de domination et des rapports de pression extrêmement forte, que ce soit des relations inter-individuelles, que ce soit au sein d'institutions de manière plus large, que ce soit au niveau législatif, voilà, un peu dans tous les cadres auxquels on peut penser. Et c'est vraiment un truc qu'on aimerait un peu chambouler, bouleverser, qu'on n'a pas de solution toute prête de savoir comment est-ce qu'il faut faire. Et par contre, que si on commence à se poser la question, à réinterroger nos pratiques, on pense que ça peut amener à des relations plus chouettes.
Et moi, j'ai une question, parce que là c'est le numéro 2, est-ce que le numéro 1 on peut encore le choper quelque part ou c'est définitivement mort ?
Alors, il y en a sûrement chez plein de vos potes, mais si jamais vos amis ne l'ont pas, vous pouvez le trouver sur Internet. Et alors, l'abordage, il a trouvé une sorte de... Il n'a pas encore de site Internet, mais il a trouvé une plateforme d'hébergement qui s'appelle Issu. Ça s'écrit I2S2U. Et si on tape issu l'abordage dans n'importe quelle recherche, enfin moteur de recherche, on va tomber dessus directement. Et là, vous pouvez feuilleter la revue. C'est un PDF ultra amélioré. On peut feuilleter sur Internet une revue. Et le numéro 1, comme le numéro 2, est disponible numériquement, complètement gratuitement sur le net. Mais voilà, il n'est pas encore hébergé sur un site spécifique puisque le site n'existe pas encore.
Très bien, merci pour cette information. Alors, on va revenir tout de suite à l'actualité nationale et internationale et on va parler de ce qu'on appelle dans les médias depuis quelques semaines la crise des migrants. Alors, ça risque d'être un peu lourd, il va y avoir beaucoup de chiffres et on fera un petit point également sur la situation à Vintimille. On va commencer donc par quelques chiffres pour se donner une vue d'ensemble sur cette question des migrants et des migrations en lien avec l'Union européenne surtout. Rappelez que depuis 15 ans, depuis l'an 2000 à peu près, il y a eu plus de 40 000 personnes qui sont mortes aux frontières européennes et plus de 3 000 depuis janvier 2015. Donc, depuis le début de l'année, on a entendu ces chiffres, je les rappelle quand même rapidement, plus de 350 000 personnes ont traversé la Méditerranée et une grande partie d'entre eux est considérée, et c'est comme ça qu'on les appelle notamment, alors intellectuels, scientifiques, médiatiques, hommes de médias, comme réfugiés, c'est-à-dire des gens qui fuient un pays en guerre ou parce qu'ils sont pourchassés pour des raisons politiques ou autres dans leur pays. Ce terme de réfugié est d'ailleurs souvent l'occasion de trier ce qu'on appelle jamais comme ça, mais c'est ça qu'il y a derrière les lignes, les bons migrants et les mauvais migrants, c'est-à-dire les migrants économiques. Voilà, alors ces dernières années, on va parler un petit peu de l'accès, comment ces migrants entrent dans l'Union européenne, par où ils entrent dans l'Union européenne. Alors pendant très longtemps, au début des années 2000, ce qui était surtout connu, et c'est vrai que c'était un lieu de passage favorisé, là où il y avait le plus de migrants qui passaient, on parlait beaucoup de la Méditerranée occidentale, alors soit par Gibraltar, soit par les Canaries. Et puis petit à petit, un rééquilibrage s'est opéré dans la deuxième partie des années 2000 et surtout au début des années 2010 via la Libye, donc vers la Méditerranée centrale, donc le passage de la Libye vers l'Italie, notamment par Lampedusa, c'est très connu, et la Sicile, Malte également. Et aujourd'hui, c'est cette route qui est la plus utilisée, ainsi que celle de Méditerranée orientale par la mer Égée et aussi par la Turquie, donc parfois par voie de terre. Voilà pour les principales routes. Donc en gros, hein, pour le dire simplement, on est passé d'une route qui était principalement en Méditerranée occidentale et aujourd'hui on est plutôt vers l'est de l'Europe pour les principales routes d'arrivée des migrants. Ces changements s'expliquent il y a différentes raisons pour les expliquer. D'une part, il y a des nouveaux conflits, notamment celui de Syrie actuellement, qui est à l'est de l'Europe. Donc évidemment, beaucoup de réfugiés de demandeurs d'asile qui deviendront plus tard peut-être des réfugiés viennent de l'est de l'Europe. Et puis également la fermeture et la surveillance de plus en plus efficaces et tristement efficaces des frontières par les pays de l'Union européenne. À mesure donc que celle-ci se ferme, les flux de migrants se déplacent de la forteresse européenne la forteresse européenne se referme d'autant. Alors, comment elle se referme, cette forteresse européenne? Dernièrement, elle s'est renforcée, et c'est d'ailleurs ces derniers mois, avec une multiplication de murs ou de quasi-murs. Alors d'abord à Calais, puisque le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen. À Calais, il y a une nouvelle barrière du côté français pour limiter l'entrée des migrants, donc réfugiés et autres, vers le Royaume-Uni. En Hongrie, on en a entendu beaucoup parler ces derniers jours, ces dernières semaines. La Hongrie est en train de terminer son mur le long de la frontière avec la Serbie, ce qui ne suffit pas, puisqu'ils envoient aujourd'hui la police, ils gazent, et ils tapent sur les migrants. Idem pour la frontière entre la Serbie et la Roumanie. La Roumanie et la Serbie, d'ailleurs, ne font pas partie de l'espace Schengen. La Serbie, d'ailleurs, ne fait pas partie non plus de l'Union européenne. Et donc, la Roumanie construit un mur le long de sa frontière serbe. Et puis, à ceci s'ajoute le mur qui avait déjà été construit en 2012 par la Grèce avec sa frontière turque de l'autre côté du Bosphore. Et puis, à ceci s'ajoute évidemment les enclaves très connues et fortifiées de Ceuta et Melilla au Maroc, enclave espagnole. Voilà. On pourrait ajouter qu'en Bulgarie et en Macédoine, l'État envoie l'armée contre les afflux de migrants. Et depuis cet été, les États à l'intérieur de l'espace Schengen rétablissent des contrôles aux frontières. Voilà, c'est notamment le cas à Vintimille. Et on peut peut-être faire le point rapidement sur la situation de Vintimille, puisque la frontière est fermée depuis juin et qu'il s'y opère des contrôles aux faciès plus que fréquents.
Bah oui, puis c'est même plus que des contrôles aux faciès, en fait. C'est vraiment aussi une sorte de mur, bon, pour le coup, pas matérialisé, mais complètement effectif, qui existe à Vintimille depuis le mois de juin. Alors voilà, ben vous entendez parler dans tout, enfin en tout cas dans beaucoup de médias dominants, on va dire, sur cette question des migrants depuis plusieurs semaines. C'est pas forcément facile à traiter aussi en un quart d'heure. Donc on s'est dit que peut-être on vous ferait une petite étude de cas sur Vintimille, parce que déjà ça touche la France et que ça permet aussi d'être plus actif sur ces questions-là, parce que c'est aussi plus proche de nous. Aussi pour vous dire que vous pouvez que beaucoup des informations qu'on vous donne aujourd'hui sont tirées d'un site qui s'appelle Sans papiers ni frontières, du coup au pluriel, noblogs.org, et que vous pouvez retrouver une brochure qui s'appelle Un été contre les frontières. Je pense que si vous tapez Un été contre les frontières, vous tomberez sur cette brochure aussi, qui revient sur toutes les luttes autour des migrations qui a eu lieu pendant cet été. Et pour revenir sur Vintimille, alors pour les gens qui ne le situent pas géographiquement, c'est une ville qui est vraiment entre l'Italie et la France. C'est la première ville frontalière en Italie quand on longe la Côte d'Azur et qu'on arrive vers l'Italie. Donc si vous voulez, c'est vraiment d'un côté il y a Menton et de l'autre côté il y a Vintimille. Alors, pour essayer de se matérialiser comment des frontières comme ça pour les sans-papiers, ça peut se mettre en place, il faut imaginer que pour les touristes ou pour le français lambda, il n'y a toujours pas de problème pour passer tranquillement la frontière. Et notamment, comme c'est l'espace Schengen, on peut vraiment passer d'un pays à l'autre sans se rendre compte qu'on passe d'un pays à l'autre, notamment en voiture. Mais que depuis le mois de juin, par contre, il y a un déploiement des forces de police françaises et italiennes qui tentent de bloquer le passage des personnes migrantes qui souhaitent poursuivre leur voyage en pratiquant des contrôles aux faciès. Parce que peut-être ce qu'on a oublié d'insister, c'est que beaucoup des personnes qui passent par l'Italie passent ensuite par la France, mais ont pour objectif de rejoindre le Royaume-Uni. Et ce qui explique aussi pourquoi il y a énormément de contrôles là, à Vintimille, puis à Calais, puisque voilà, l'objectif, en tout cas d'une partie des personnes migrantes non négligeables, c'est d'arriver au Royaume-Uni. Et du coup, il y a un blocage de ça extrêmement fort. Donc, il y a des barrages routiers, des contrôles à bord des trains, avec souvent la complicité des contrôleurs de la SNCF, qui sont quotidiens et qui s'étendent du coup jusqu'à Nice et Marseille. Donc c'est un peu toute la région PACA qui est concernée par ce dispositif exceptionnel. Donc chaque jour, en fait, il faut quand même s'imaginer que depuis le mois de juin et même avant, en fait, des dizaines de migrants et de migrantes réussissent quand même à passer la frontière, sont parfois arrêtés, ramenés au côté italien par la police française, et quand même, heureusement, enfin, si on peut dire, beaucoup d'autres parviennent à passer et peuvent continuer leur voyage et du coup, généralement, arriver à Calais. Côté italien, du coup, parce qu'il y a des mesures qui sont prises et en France et en Italie pour gérer cette frontière spécifique, en fait, qu'on peut dire entre la France et l'Italie, les mesures prises contre les migrants et les migrantes et la liberté de circulation sont vraiment multiples. Donc il y a le déploiement policier, l'interdiction de distribuer de la nourriture, et vraiment tout est fait pour décourager celles et ceux qui veulent passer de l'autre côté des Alpes. Et ce qui est fou, je trouve, dans